BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel.
Et un grand bonsoir à toutes et à tous en ce jeudi 4 juillet 2024. Bienvenue sur le plateau de BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. 20h, 21h30, comme chaque soir, 90 minutes pour se plonger dans l'actu tech du jour. Avec des analyses, bien sûr, on décortique tout ce qui se passe en ce jeudi. Avec, pour commencer, eh bien, le premier anniversaire de Threads. Vous savez, c'est ce réseau social qui était censé contrer X, et donc anciennement Twitter. On va voir si les paris ont été tenus. On parlera aussi de ce résultat de l'ARCEP très intéressant. Netflix représente aujourd'hui 15% du trafic internet français et on ne compte que Netflix dans ces 15%. Et puis on parlera d'espace tout à l'heure en fin de Tech & Co. Avec cette perspective étonnante, en 2030, l'ISS sera détruite par SpaceX et Elon Musk, puisque l'ISS sera remplacé par un autre vaisseau. Antoine Meunier, qui est notre expert spatial, viendra nous expliquer tout cela tout à l'heure. Voilà, Tech & Co, la quotidienne, en direct à la radio, à la télé tous les soirs. Et puis après, les replays et les podcasts qui vous attendent. Bienvenue à vous toutes et à vous tous.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
On débrief l'actu ce soir, comme chaque soir d'ailleurs, avec Claudia Cohen qui est là. Salut Claudia.
Salut François.
Ravi de te retrouver sur le plateau de Tech & Co. Tu es journaliste au Figaro, bien sûr.
Toujours.
Ça n'a pas bougé. Non. Et à tes côtés, eh bien, c'est Guillaume Gralet qui nous fait l'amitié d'être avec nous. Salut Guillaume.
Salut François.
Très heureux de t'accueillir. Guillaume Gralet qui est journaliste au Point, spécialisé dans les nouvelles technologies depuis quelques années maintenant. Le temps passe, mon cher Guillaume.
Ouais.
Et puis Frédéric Simotel, mon fidèle camarade.
Le temps passe aussi.
Le temps passe aussi. Voilà, effectivement. Est-ce que tu vas éternuer ce soir, mon cher Fred ?
Je vais essayer de me retenir.
Oui, parce que pour tout vous dire, hier, c'était un festival d'éternuement de Frédéric Simotel. Comme quoi, ce n'est pas que de l'IA, non, c'est, de la, c'est aussi un humain.
C'était de la toux. Oui,
c'était de la toux.
Voilà, c'est ça que tu l'as mis seul là-bas. En fait.
Voilà, trop loin. Il est dans une zone où il est totalement désinfecté. C'est pour ça. Bon, trêve de plaisanterie, on vous raconte un petit peu notre vie, mais l'actualité est très intéressante ce soir. Dans quelques instants, donc, on parlera de ce premier anniversaire de Threads, lancé à grand renfort de com l'année dernière. Mark Zuckerberg voulait en fait une réponse à Twitter. Un an après, qu'est-ce que ça donne ? On verra avec les chiffres. On parlera aussi d'un nouveau réseau social. Est-ce que vous avez entendu parler de NoPlace, les amis ?
Ce matin.
Mais voilà. C'est un réseau social qui est inspiré de MySpace et qui fait un carton. Il n'y a pas d'algo, visiblement. Enfin, voilà, on reviendra sur ce succès impromptu. On reviendra sur Qtay et sur Mochi. On en a beaucoup parlé hier soir. Mais je voulais avoir l'avis de Guillaume Gralet, puisque Guillaume était à la présentation de Mochi hier. On évoquera aussi DJI qui, évidemment, sous la contrainte de la réglementation américaine, vous le savez, ne peut plus vendre de drones, se retrouve un petit peu étouffé sur le marché occidental et a décidé de se diversifier. C'est très intéressant et très intelligent, un peu comme Huawei finalement. Et vous savez quoi, maintenant DJI va faire des vélos électriques. C'est dingue hein, quand même. Hein. Mais ils se servent de toute la technologie qu'ils ont, on va dire, apprise avec les drones, de la gestion de l'énergie, pour mettre ça, en fait, dans les vélos électriques, et puis les moteurs électriques, etc. etc. On en parlera tout à l'heure. Mais pour débuter, donc, j'aimerais qu'on revienne sur le trafic Internet français. C'est vrai que chaque année, on a la chance de pouvoir commenter cette étude de l'ARCEP, qui est là pour analyser le tuyau de l'Internet des Français. Voilà. Et je le disais tout à l'heure, alors il y a 15% de cet Internet qui est squatté par Netflix, mais ça, ce n'est que Netflix. Quand on rajoute, en fait, tous les GAFAM, on arrive, Fred, à, je crois, quasiment 50%.
Oui, c'est ça.
C'est énorme. Je sais pas ce que, enfin, quand on voit ces chiffres, on se dit que véritablement, voilà, 50% de l'internet provient des États-Unis. Finalement, je trouve que c'est vertigineux. Qu'est-ce que tu en penses, Claudia ?
Oui, c'est assez fou. On a vu. Alors, il faut dire quand même que chaque année, les résultats se ressemblent beaucoup. Depuis en fait l'arrivée des plateformes de streaming vidéo, ceux qui occupent, il y a Netflix, ceux qui occupent beaucoup l'espace. Évidemment, c'est Disney+. Après, t'as les vidéos, t'as Google. Google, etc.
Google avec YouTube, bien sûr.
Avec etc. YouTube, bien sûr, on voit qu'il y a une consommation de plus en plus importante. Et je pense que sur ce point, ça alimente tout à fait le discours et la volonté depuis des années des acteurs du secteur des télécoms de dire, en fait, vous qui finalement prenez toute la bande passante, maintenant, il faut nous payer un petit peu pour qu'on puisse investir, en fait, dans des infrastructures avec un réseau de plus haute qualité. Pour l'instant, donc ça a été un appel lancé par les télécoms, oui, comme Orange, par exemple, cité en France, après il y en a plein d'autres en Europe, ouais, depuis des années.
Et ils même ont aux pas... États-Unis, hein, AT&T, il y a un mois...
Enfin, aux États-Unis, pardon, évidemment.
Aussi,
Ils n'ont pas tellement été écoutés pour l'instant. L'idée, c'était d'avoir une taxe Netflix, en fait, parce qu'en fait, plus les gens regardent des vidéos, plus on regarde du streaming, et plus, finalement, il y a un besoin énorme en réseau. Alors, eux, du coup, vu qu'ils sont quand même pointés du doigt dans chaque étude Netflix, bon, évidemment, ils n'en veulent pas de cette taxe, et ils disent qu'ils font tout pour améliorer, pour compresser l'énergie, faire
ils
en sorte
que... Ils font des efforts, je crois.
Ils font de vrais efforts, mais de toute façon, ils sont obligés de faire des efforts.
C'est intéressant. Guillaume, là-dessus,
ouais, non,
cette taxe, ça fait des années qu'on en
ouais,
parle
ça fait des années qu'on
et
en
on
ne
la voit pas arriver.
Ouais, c'est malheureusement, quand on voit le graphique que vous avez montré, c'est un peu une double faillite. C'est-à-dire qu'on voit bien malheureusement que les Dailymotion, etc. N'arrivent pas à s'imposer. Et puis surtout que les services de VOD qui ont été lancés par les FAI ont eux-mêmes du mal à s'imposer. Comme le disait Claudia, on aimerait en fait que ces géants d'Internet contribuent davantage aux infrastructures, mais on n'en prend pas véritablement le chemin aujourd'hui.
Ouais, c'est un peu comme le coucou, vous savez, cet oiseau qui va squatter les nids des autres. C'est un peu ça, finalement. Hein, c'est
moi,
géant américain du divertissement.
Moi, dans le rapport, j'ai noté un petit alinéa, là, c'est que la croissance...
ralentit.
Je le présente, mais la croissance ralentit.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la croissance trafic en 2023, elle est de plus 8%, alors qu'en 2022, elle était de plus 20%. Alors, la première chose, on se dit, oui, 2022, on sortait du Covid, on était à fond les cours interactifs, le streaming, le télétravail, etc. Et puis, quand on regarde un peu plus près, alors l'ARCEP dit, oui, mais attention, il y a aussi moins d'abonnés sur les plateformes de streaming, donc ça joue. Alors, les partages de comptes, Netflix, ont été retirés, donc évidemment, moins d'abonnés, moins de trafic. Et puis, il y a autre chose aussi qu'on regarde. On regarde au niveau technique et on se rend compte que, ben oui, la compression vidéo, ça marche plutôt bien. Hein, ouais. On réussit à... Alors là où on divisait le contenu par deux, aujourd'hui, on réussit à diviser le contenu par cinq. Hein,
avec la même qualité d'image,
c'est ça.
Imaginez un peu les économies que ça peut faire à Netflix.
L'optimisation des trafics, aujourd'hui, on fait beaucoup plus. Alors du cloud, mais un peu... Alors je vais dire du edge, parce que comme ça, on comprend un peu techniquement. Mais on rapproche un peu les serveurs des utilisateurs, alors pour plus de facilité. Mais du coup, ça fait moins de réseaux qui circulent un peu partout. Donc voilà, il y a l'optimisation des flux. Il y a beaucoup de choses qui sont faites aussi de la part des opérateurs, des opérateurs de tous ces fournisseurs d'accès, pour réduire un peu le trafic qui circule, et arrêter d'avoir des serveurs à droite, à gauche qui vont chercher du contenu je ne sais où. On essaie beaucoup de dupliquer un peu plus proche de l'utilisateur. Et là, on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait. Alors, c'est un travail aussi qui est lié à l'environnement. Je pense que tout ce qui est durabilité, on essaie de consommer un peu moins. Donc, comment on fait? Mais il y a vraiment des avancées technologiques aussi sur ce sujet-là.
Il y a quelque chose de très intéressant aussi dans le rapport de l'ARCEP sur ce sujet. Il disait que ChatGPT était en train de devenir la porte d'entrée d'Internet. On va simplifier, on va dire, le nouveau type de moteur de recherche. Et en fait, maintenant, en tout cas, il constatait que les derniers mois de 2023, en tout cas, les Français allaient de plus en plus chercher en fait quoi regarder, chercher leurs idées sur le chatbot plutôt que sur Google. Et du coup, ça pose de vraies questions sur l'avenir aussi, peut-être des moteurs de recherche plus globalement.
Bon, et puis ce qu'on peut gagner en fait en termes de consommation énergétique grâce à la compression sur les vidéos, eh bien les mêmes géants d'Internet qui sont aussi les grands acteurs de l'IA le repèrent. On se demande si Google va pouvoir respecter ses engagements en termes de environnementaux, etc. Ouais. À cause de la consommation énergétique.
Oui, la décarbonation, objectifs vont être compliqués à venir, je pense.
S'il y a un miracle technologique.
Ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, on ne le voit pas, miracle technologique.
Oui, ils avaient dit Google dit en 2030, on sera neutral, zéro émission. Mais derrière, on voit qu'ils rachètent beaucoup de crédits d'énergie renouvelable. Alors, on voit des. Alors, ça, c'est toujours ce qu'on dit, mais on attend de voir concrètement ce que ça va donner. Parce qu'on dit Microsoft est en train de voir comment ils pourraient installer des SMR, donc des petits. Des petits, c'est quand même la taille d'un terrain de tennis, mais des petites centrales nucléaires plus proches de leur data center. Donc on voit, ils ont quand même tous cette... Et on le disait, souviens-toi, Tim Cook, il y a 3-4 ans, il a deux obsessions. C'était la santé, enfin au-delà des iPhones, il faut que ça marche, etc. C'était la santé et les énergies renouvelables. C'était ces deux trucs.
Ouais.
Et Satya Nadella, il est un peu pareil. Il a cette obsession d'énergie renouvelable parce qu'ils se rendent compte quand même. Puis c'est des gens, ils vivent sur la planète. Ils sont pas, ils savent qu'ils sont pas éternels, mais enfin, ils y pensent quand même un petit peu.
Après, ils sont quand même beaucoup guidés par les régulations qui sont mises en place. Et c'est vrai que les différents changements politiques qu'on peut voir au Parlement européen il y a quelques semaines, qu'on pourra voir peut-être aux États-Unis, je pense.
Allez, ça reste petit. Si pour l'instant, tant qu'on leur dit, oh, vous êtes à 3-4% de l'émission mondiale. Bon, personne s'affole. Par contre, c'est vrai que si ça commence à monter à 8, 10, 12, 15%, là, on commence à dire oui, les gars, là, attendez, vous.
Alors, un peu. Ce qui est intéressant aussi avec l'IA générative, c'est que ça va peut-être aussi bouleverser un peu cette carte de ce réseau Internet français et un peu mondial, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, la voix est en train d'exploser en IA générative. Et ça. Non, pas tant que ça, parce que tu parles maintenant et tu remontes aussi. Et c'est rigolo parce que à Vivatech, j'ai rencontré le directeur de l'innovation d'Orange, que tu connais bien, et qui nous expliquait qu'ils voyaient ça arriver, en fait, sur leur réseau 4G et 5G.
Oui, mais la voix en poids, c'est beaucoup moins que l'image.
Oui, mais avant, elle n'existait pas, cette voix. Et ça fait quand même de la data supplémentaire qui part sur les réseaux. Je suis un peu d'accord, mais pour eux, c'était un vrai sujet. Et il fallait qu'ils mettent à jour les réseaux, justement, pour encaisser toutes ces requêtes qui sont faites par la voix.
C'est une sorte de priorité, du coup, peut-être qu'ils
sont. Peut-être.
Et la voix doit être.
Bon, en tout cas, toujours intéressante cette enquête de l'ARCEP. Allez, on remonte un an en arrière. On était tous excités comme des puces avec le nouveau réseau social de Meta, Threads, qu'on n'a pas pu tester tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les Américains ont tout de suite pu, évidemment, s'inscrire. Mais nous, il a fallu qu'on attende, je crois, la rentrée 2023 pour pouvoir accéder,
C'est pas décembre ? C'est pas décembre 2023 ? Enfin bon.
Ouais, c'était fin d'année.
Ouais, je vais regarder. C'est peut-être plus tard, en effet. Mais en tous les cas, ça y est, on a tous maintenant Threads. Mark Zuckerberg ne s'en est jamais caché. Hein. Il voulait créer un peu le contrepoids à X, hein, donc anciennement Twitter, et avoir un réseau qui ressemble à X, comme deux gouttes d'eau. Hein. Vous pouvez poster, vous pouvez reposter, vous pouvez liker, vous pouvez répondre, vous pouvez poster des vidéos, etc. Mais avec une particularité, sans avoir le côté un peu anxiogène de Twitter et avoir des infos qui partent n'importe où, n'importe comment, et qui disent n'importe quoi. C'était ça un peu le principe de Threads.
Pas de polémique, des trucs plutôt gentils.
Voilà, et donc, Adam Mosseri, qui est le grand patron des réseaux sociaux de chez Meta, a annoncé ce chiffre de 175 millions. Alors on se dit, qu'est-ce que c'est que 175 millions ? En fait, ce sont 175 millions d'utilisateurs actifs tous les mois sur Threads. Mais bon, qu'est-ce que ça veut dire, ce chiffre ?
Non, c'est sûr qu'on est un peu déçus parce que ça n'a pas vraiment cartonné, cette fameuse pluralité sur ces messageries instantanées. On ne l'a pas, on l'a espéré un moment avec Mastodon, mais on s'est vu que c'était, même s'il y a la vraie décentralisation, très difficile à utiliser, même si ça, c'est un peu plus facile avec les hashtags. Blue Sky, qui était aussi en accès réservé, c'est-à-dire qu'il fallait être invité, et qui avait été initié par Jack Dorsey, qu'on a vu à la création de Twitter, avait pas mal de promesses également, mais Blue Sky, ça ne fonctionne pas vraiment non plus. Et on n'a pas encore cette pluralité. En fait, je m'en suis rendu compte cette semaine parce que j'ai appelé un mathématicien qui s'appelle David Chavalrias, qui est directeur de recherche au CNRS et qui s'est intéressé à la manière dont ce qu'on attribue aux bots de désinformation russes vont sur les réseaux sociaux. Et il a fait une cartographie absolument géniale sur Twitter sur les thèmes qui vont créer le plus de discord. Et en fait, il m'a dit, je me suis intéressé à Twitter parce que même si moi-même je suis sur Mastodon, je suis sur Blue Sky, c'est quand même chez Twitter que continuent à s'exprimer les leaders d'opinion, que là où se fait se crée souvent l'opinion.
Oui, le pari de Thread, c'était quand même qu'en face le gros, alors là X il revendique Elon Musk 600 millions d'utilisateurs actifs mensuels, que X allait un peu s'effondrer parce que les politiques, parce que les marques aussi, parce que les utilisateurs allaient partir, c'est complètement faux. Là on le voit avec l'actualité politique effervescente partout dans le monde, tout se passe sur Twitter, même d'un point de vue sportif, aussi actualité sportive, toutes les conversations, si on se réfère à la France, sur Roland Garros, c'était quand même sur Twitter. Là, les JO, ça se joue aussi sur Twitter, du coup, enfin sur X, pardon. Du coup, il y a cette idée que, en fait, quelle est finalement l'identité de Thread, parce que le fondateur a parié sur une image, disons, plus consensuelle, qui allait plaire. Or, on se rend compte que, malgré ce que les gens disent, on n'aime pas forcément cette consensualité. Et puis aussi en termes de possibilités de fonctionnalité, il n'y a pas non plus grand chose de plus que sur X. Donc il manque une identité et il manque aussi des fonctionnalités. Et voilà, et moi ça m'étonne aussi de voir plus généralement dans les réseaux sociaux, on n'a pas vu encore, peut-être on verra, mais de quelle façon l'IA générative pourra transformer l'expérience en fait qu'on peut avoir sur les sur les réseaux sociaux. On ne voit pas encore, et moi je pense que c'est là où il y a vraiment un truc à jouer, quoi.
Déjà ils ont ouvert la porte plus vite puisqu'on était lié à son compte Instagram, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de pub, c'était facile à utiliser, c'était plus de 500
caractères. Il n'y a toujours
caractères.
Pas de pub, hein,
oui, toujours pas de pub, c'était 500 caractères, on pouvait mettre de l'image, de la vidéo, tout ce qu'on voulait. Ils ont quand même eu un petit souci, comme par hasard c'est le groupe Meta de confidentialité des données qui a d'ailleurs retardé un peu cette partie-là. Ça c'est toujours un problème chez Meta, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il faut quand même reconnaître que X Twitter, ils s'en sortent bien, et les innovations, ça marche bien. Et alors après on peut critiquer les contenus, comment on reçoit un peu son fil d'actu, mais si on a la petite pastille bleue, on arrive à avoir du contenu. Enfin je trouve qu'aujourd'hui, et d'ailleurs on le voit là, on est en plein plongé dedans dans cette campagne politique, oui, c'est tout se fait que sur X Twitter, hein, ça continue. Donc il a réussi à imposer ça. Et de l'autre côté, X Twitter, ils ont réussi à bien à gérer la chose. C'est vrai qu'on entend moins de polémiques autour de... Alors, Elon Musk s'en est un peu éloigné. Enfin, s'en est un peu éloigné. C'est Linda Yaccarino, même si, il se frictionne un petit peu. Mais en tout cas, c'est elle qui gère ça. Lui, il s'intéresse à la technique et tout ça. Mais il est beaucoup moins dans les grandes...
Il était à Cannes, quand même. Il était à Cannes. Il y a eu le grand raout des publicitaires. Il est venu à Cannes avec ses...
Oui, il a fait un peu la danse du ventre.
Voilà, mais d'un point de vue... Moi, ce que je sais, c'est d'un point de vue opérationnel, il donne ses idées, tout ça, mais il est plus en train de dire faut faire tel service, tel truc. Tel... Il a laissé.
Il s'est un peu calmé, c'est vrai.
Il s'est un peu calmé là-dessus, et d'ailleurs, on le voit. Et bon, après, il faut rassurer encore les annonceurs, mais. Oui, il faut voir que ça marche bien, quoi. C'est pas...
C'est vrai, Guillaume, que la puissance de Twitter, elle a pas été trop écornée.
On a eu peur à un moment. Hein, on s'est tous dit que ça allait.
Aujourd'hui, toute l'actualité se fait sur Twitter. Mm-hmm. Dès qu'il y a un clash.
Ouais, non. Et puis je posais encore une fois la question à ce chercheur en information. Il expliquait. Je disais, mais pourquoi il n'y a pas des contre-influenceurs qui vont rétablir la vérité, etc. Mais il me disait. Malheureusement, mon étude, elle porte que sur les comptes ou les messages qui sont repostés au moins 5 fois, et qu'une bonne nouvelle ou une nouvelle identifiée comme la plus juste, qui par exemple peut être un peu complexe, eh bien, elle va être beaucoup moins partagée qu'une fake news, malheureusement, aujourd'hui, quoi. Donc
peut-être que ce serait un corner à trouver dans une spécialité, on va dire, vu que c'est pas la politique, vu que c'est pas c'est, peut-être il y a
le divertissement,
sur le divertissement, la culture, enfin il y a peut-être des choses
visiblement Taylor Swift est sur Threads, donc c'est quand même il faut bien qu'on l'accueille quand même,
qui joue un peu ce rôle-là, Instagram, où tu partages tes...
Oui, si, si.
Voilà, c'est... Après, on le voit
Madame
tous...
Madame Mosquée, c'est le boss d'Insta.
Non, mais on voit tous déjà, nous, nos messageries, entre notre messagerie pro, perso, en plus perso, si on en a 2-3, on nous communique avec nous sur LinkedIn, on communique avec nous sur Twitter, enfin, tu vois, si, pareil pour les réseaux sociaux, ça commence à...
Et le problème, c'est que...
Une journée à gérer déjà tout est...
Tu l'as dit tout à l'heure, Fred, c'est vrai que Insta et Threads sont véritablement impliqués, et je sais pas, enfin, moi, je regarde un peu Insta de temps en temps, et souvent, on me propose d'aller sur Threads pour commenter l'actu, pour réagir à des posts, etc. Donc il y a aussi on vous pousse à aller sur Threads. Et ça gonfle aussi, je pense, artificiellement l'audience, parce que tu es sur Insta, tu regardes un peu ce qui se passe, sans faire exprès, tu cliques, paf, tu arrives sur Threads. Donc il y a ça aussi.
Il faut regarder de près, mais je trouve que les marques, quand elles disent retrouvez-nous sur Facebook, moi, je vois pas souvent Threads. Hein,
non.
Facebook, X, LinkedIn.
Ouais, c'est vrai que c'est pas encore la folie. Hein. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Threads. On enchaîne sur un autre réseau social qui lui est tout frais. Il s'appelle No Place. Et on doit ça en fait à une jeune femme qui en fait se souvenait que quand elle était ado, elle se servait de MySpace et elle aimait bien le côté un peu la candeur de MySpace. Voilà, où tu pouvais commenter des petits posts et tout. Enfin, il y avait un côté un peu frais et léger finalement de MySpace qui a un petit peu disparu, c'est vrai, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, hein, qu'on parle de TikTok, d'Insta ou de X. Et donc, ce qu'elle a essayé de faire, cette dame, c'est de remettre un peu au goût du jour ce MySpace avec cette appli qui s'appelle No Place. Elle s'appelle Tiffany Zong. Et donc, elle lance ça et on se dit, bon, voilà, encore un réseau social. Ouais. Qui va aller sur un réseau social? Eh bien, le pire dans tout ça, c'est que ça cartonne. C'est un réseau social qui est, voilà, depuis disponible depuis le 3 juillet et qui est numéro 1 sur l'App Store américain, quand même. C'est fou. Vous avez entendu parler de ce truc-là? De No Place?
Très honnêtement, ce matin, parce qu'on a fait un papier dans le Figaro aussi là-dessus, je pense, comme beaucoup de médias, mais sinon pas tellement. Mais je suis pas sûre, moi, d'être la cible
c'est
aussi.
C'est la Gen Z, génération Z. Ouais. Voilà. Donc c'est...
Moi, je suis juste au-dessus, donc voilà. C'est fini pour moi.
Et oui.
On parlait, Guillaume, de tous ces réseaux sociaux. Encore un.
Ouais.
C'est alors là, il que... y a eu une hype tout de suite, voilà, numéro 1 sur l'App Store, mais est-ce que ça va durer?
Ouais, on sait pas, effectivement. Moi, on a besoin de ce genre de réseau un peu plus cool, surtout en ce moment. Où les esprits sont un petit peu échauffés, mais il y a aussi une autre concurrence dont on n'a peut-être pas trop parlé, mais qui va dans le sens de ce que disait Frédéric, c'est-à-dire qu'on est extrêmement sollicité de toutes parts. C'est le fait que des messageries professionnelles, dites professionnelles, comme certaines de Google, Microsoft, mais aussi Slack, sont de plus en plus présentes dans nos vies. C'est-à-dire que Slack, par exemple, je parlais avec des dirigeants récemment, ils me montraient certaines fonctionnalités qui sont vraiment super intéressantes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un message qui va vous récapituler lorsque vous êtes déconnecté pendant une nuit, bien sûr, mais un week-end, va vous rappeler les messages les plus importants, va vous tenir compte aussi de votre fuseau horaire si vous ou un de vos collaborateurs est en voyage, tenir compte aussi de certains horaires de travail. Donc il y a des choses assez intéressantes, certaines innovations qui reviennent des messageries professionnelles, donc qui vont aussi un peu concurrencer ce genre de messages.
Il y a également ce côté, parce que c'est vrai que ces dernières années, on est tous devenus, l'utilisateur est devenu assez passif sur les réseaux sociaux. Avant, tu postais, ouais. Tu commentais, ouais. Tu partageais réellement ta vie. Et là, avec la poussée de plus en plus importante des algorithmes, que ce soit sur TikTok, qui paraissait un peu plus authentique au début, que ce soit sur Instagram, en fait, je ne sais pas vous, mais moi, les gens autour de moi, plus personne ne poste rien. Et vous avez vraiment... tout le temps en réception. Et vous avez vraiment tout un univers économique qui est trusté par les publicitaires, par les marques qui envahissent aujourd'hui TikTok, qui envahissent Instagram. Et en fait, la notion même de réseau social, elle disparaît un peu finalement.
Voilà, bon, écoutez, si vous avez un App Store américain, vous pouvez tester.
TikTok devient même parfois le moteur de recherche de certaines générations.
Ouais. Ah mais bien sûr, comme Instagram est un moteur de recherche pour plein de gens. Vous cherchez un resto, un hôtel, il y en a plein qui vont sur Insta et non plus sur Google. Hein. Ce que je voulais dire concernant ce réseau, No Place, c'est que donc il a un côté un peu vintage, visiblement, et c'est un peu comme un gigantesque forum où tous les utilisateurs peuvent en fait publier des messages à l'ensemble des internautes ou dans leur cercle proche, et on peut pas mettre de vidéos, pas de photos, c'est vraiment... Voilà, il y a un côté vintage dans ce truc-là. On va voir si ça va marcher. Bon, écoutez, No Place, ça s'appelle. Pas encore disponible en France. On verra si ça arrive un jour chez nous. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais qu'on évoque tous ensemble le gros titre d'actualité d'hier de Tech & Co, la quotidienne. C'était Qtie et l'arrivée de Moshi, qui nous a tous bluffés. Rappelons-le, hein, cet assistant vocal boosté à l'IA avec lequel vous pouvez avoir une discussion impressionnante. Alors pour l'instant, c'est qu'en anglais, c'est pas encore parfait, c'est de la démo. Mais Guillaume, je voulais avoir ton avis et Claudia aussi là-dessus, puisque vous n'étiez pas avec nous hier, on en a beaucoup parlé, mais tu étais à la présentation de Moshi hier. Qu'est-ce que tu en as pensé?
Bon, alors, il y a plusieurs choses, hein, pour faire très vite, mais je pense que vous en avez déjà beaucoup parlé hier. C'est le côté très ouvert, c'est-à-dire c'est une équipe de passionnés. On a un peu l'impression d'avoir le OpenAI des débuts avec cette équipe, mais qui publie leurs recherches, etc. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ce qui est sympa lorsque j'ai testé Moshi, c'est que côté désagréable, elle va te répondre avant même que tu aies fini ta question. Je pense que c'est pour montrer la latence, mais le manque de latence, l'absence de latence, et ça fonctionne super bien. Et puis il y a plusieurs choses très rigolotes, c'est qu'elle a de l'humour, elle peut adapter son ton. On a vu des démonstrations sur les accents, sur certaines intonations. Ça marche vachement bien. On a envie d'avoir ça en français, mais c'est surtout aussi les discussions avec les chercheurs. Il y a notamment un chercheur qui s'appelle Neil, son prénom, qui a beaucoup travaillé dans l'audio. Je sais qu'ils ont beaucoup de projets aussi dans la vidéo, peut-être à terme dans la médecine, mais ils veulent garder ce côté très ouvert, très labo, un petit peu comme DeepMind avec Isomorphic Labs, mais en restant véritablement ouvert. Je trouve ça vraiment...
C'est leur ADN. Hein.
C'est leur ADN. Et on a vraiment l'impression que ça les habite. Et il y a eu un accueil assez formidable du monde entier.
Qtail qui ne s'en cache pas va être un peu le petit OpenAI français, hein,
c'est ça,
finalement.
C'est la promesse du début d'OpenAI, hein, que...
Ouais, exactement. J'ai lu que ça leur avait coûté 10 millions d'euros pour développer Mochi. Finalement, à côté des 300 millions qui était la mise de départ, c'est pas énorme. Et le résultat est assez bluffant, Claudia, non ?
Oui, le résultat est bluffant. Et moi, j'ai envie de dire, on voit vraiment comment l'IA générative relance complètement la bataille des assistants vocaux. Parce que quand on va avoir un ton, voilà, les assistants vocaux, les Alexa, on aime bien ça, mais il y avait quand même un côté assez monocorde, assez robotique. Là, on arrive dans une toute nouvelle dimension. Et je pense que l'enjeu quand même pour eux, ce sera déjà, comme tu disais, il y a un enjeu de souveraineté, mais donc on espère voir quand ça arrivera une version française aussi. Et il y aura un vrai enjeu d'aller toquer à la porte aussi des pourvoyeurs des institutions, des médias aussi, du monde différent de la culture, pour essayer d'absorber aussi via des partenariats le plus de données, quoi.
Et puis très rapidement, pour entraîner cette voix, pour entraîner Mochi, en fait, c'est le jeu d'une actrice, en fait. J'ai parlé avec son papa hier, il me disait, j'ai un peu l'impression d'entendre ma fille qui répond à des millions ou des milliers de personnes en même temps, un peu comme dans le film Heure. Mais cette fille, elle est assez rigolote, parce qu'en fait, c'est un jeu d'acteur, elle sait enregistrer avec différentes voix, différentes intonations, et c'est ce qui permet d'avoir ce ton si naturel.
Après, Fred, c'est la question qu'on se posait un peu hier, le modèle économique, ça va être quoi ? Mochi, ça va être quoi ? Est-ce que ça va être un abonnement ?
C'est assez malin.
Est-ce que c'est une vitrine technologique ?
C'est-à-dire qu'ils disent, on a voulu montrer ça pour avoir d'autres sponsors, hein, ils s'en cachent pas, mais en même temps, il y a déjà des applications. Alors, ils fonctionnent en certaine manière avec Scaleway, mais aussi ça pourrait être utilisé dans des centres d'appel, par exemple d'Iliad, pour répondre de manière assez naturelle aux clients. Eux se défendent d'avoir tout but lucratif. Ils veulent mettre ça à disposition. Okay. Et l'autre chose, parce qu'on leur a dit, mais vous êtes en train de nous faire ce qu'a fait GPT-4o il y a quelques mois. Eux, ils disent, nous, on met ça à disposition du grand public et on peut tester le service sur leur compte Twitter.
Et puis, on n'est que sur la voix, quoi. ChatGPT, derrière, ils ont aussi
des images
et tout.
Bien sûr. C'est
ça.
Beaucoup plus multimodal. Ouais.
Donc, ils ont ça.
Mais rappelons qu'ils ont développé ça à 8 en 6 mois.
Ouais. Donc, c'est très bien de voir les utilités sociales, quand même, de ce genre.
Et moi, j'ai dit juste pour Claudia et Guillaume, hier, moi, ce sur quoi j'insistais aussi, c'est le côté, et quand on retrouve chez Mistral, par rapport aux Américains, c'est le côté frugalité dans le développement. On développe ce genre de choses, on essaie de se mettre des contraintes.
On est en mode start-up, vraiment.
Ouais. Et il ne faut pas, alors la dépense, c'est clair, mais la consommation de bandes passantes, de processeurs et tout ça. Et ça, c'est très français. Mistral est très fort dans ce domaine, c'est ce qui fait leur particularité. On n'est pas comme les Américains qui j'ouvre le placard, j'ai tout ça. Allez, on y va. Là, et justement, ça c'est toutes les astuces et l'école mathématique informatique française de vraiment. On se met des difficultés, mais on aime travailler sous contrainte.
On va revenir sur Qtail juste après les infos, parce que il y avait une petite démo que je voulais vous faire écouter, parce que tu l'expliquais. Donc cette comédienne a enregistré sa voix pour après qu'elle devienne finalement la voix officielle de Mochi. Ce qui est dingue, c'est que Qtail a réussi une vraie prouesse technologique. Il suffit de parler 7 secondes pour qu'après on puisse générer avec votre voix et vos intonations n'importe quoi. On va vous faire écouter juste après l'info écho les propos de Xavier Niel qui ont été diffusés pendant cette keynote. C'est totalement bluffant. Je vous invite à rester avec nous. On vous raconte cette histoire juste après l'info écho, bientôt 20h30. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Après ce balai incroyable de journalistes qui virevoltaient autour de ce plateau, là, j'avais l'impression d'être au roi Lyon. Il est temps de repartir dans l'actu. Frédéric Simotel est là, Claudia Cohen du Figaro, Guillaume Grallet du Point. On va terminer sur Qtail. On évoquait tout à l'heure donc Mochi, qui est cette intelligence artificielle donc générative, cette assistante vocale impressionnante, hein, de par sa rapidité de d'interaction avec l'humain. Ça, c'était la première partie, mais durant cette keynote, hein, organisée par les ingénieurs de chez Qtail, il y avait cette possibilité de mémoriser, en fait, de numériser 7 secondes d'une voix pour après arriver à la perfection à reproduire cette voix de manière infinie avec les bonnes intonations. Guillaume, tu as vu ça, c'était impressionnant. Tu nous dis ce que tu en penses juste après le petit extrait qu'on va vous passer maintenant. Écoutez ça.
Nous avons gentiment été autorisés à utiliser un échantillon de voix bien connu que je vais vous jouer tout de suite.
Qui va être l'émergence de l'intelligence artificielle partout dans nos vies. C'est-à-dire que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on utilise va être basé sur des algorithmes.
Vous avez tous reconnu la voix, c'est Xavier Niel. Et si on donne cet extrait de 7 secondes à notre modèle, vous pouvez obtenir ça.
Ces mécanismes que vous avez, ils sont là, il suffit juste de savoir les utiliser et de l'avancer et de les paramétrer pour que cela devienne utilisable et soit le plus efficient possible. Ça, c'est un point qui est majeur et c'est l'émergence de l'intelligence artificielle.
Donc, pour qu'on comprenne bien, si vous êtes avec nous à la radio, la dernière partie des propos de Xavier Niel n'ont jamais existé, en fait. Il n'a jamais dit ça. Simplement, les ingénieurs de QTI ont enregistrer sa voix pendant 7 secondes et l'IA est arrivée à recréer la voix de Xavier Niel avec ses intonations, ses respirations, ses hésitations. C'est dingue.
Ouais, c'est assez confondant. C'est vrai qu'on a vraiment l'impression que Xavier Niel s'est exprimé, a dit ses phrases, alors qu'en fait c'est l'IA qui s'est inspirée. Alors on avait déjà vu des papiers de recherche hein, qui, notamment ceux d'un projet qui s'appelle Val-E, qui a été publié par Microsoft, qui montrait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'on faisait dire ce qu'on voulait à une personne et surtout dans n'importe quelle humeur, c'est-à-dire avec la colère, avec de l'humour, en rigolant. Mais là, c'est la première démonstration en français que je vois quasiment en direct. Alors, j'ai parlé après avec les chercheurs. Ils m'ont dit que c'était facile à faire, mais que pour l'instant, ils n'allaient pas, à la différence de la conversation avec Moshi, hein, dont on a parlé tout à l'heure, ils n'allaient pas le rendre accessible dans un premier temps parce que ça pourrait rendre les deepfakes, ces fameuses manipulations, trop faciles et donc cette déformation de la vérité.
Mais on est d'accord que ça, c'est un peu de l'hypocrisie, je trouve, parce que aujourd'hui, si eux arrivent à le faire, dans quelques mois, c'est des trucs qu'on achètera sur étagère, non, Guillaume ? N'importe qui va pouvoir prendre la voix de n'importe qui pour lui faire dire n'importe quoi. C'est déjà un peu le cas, d'ailleurs.
Oui, c'est sûr, mais en même temps, c'est bien aussi de montrer que les chercheurs eux-mêmes se fixent des limites, parce que c'est ce qu'on leur demande beaucoup. Et c'est important aussi d'avoir cette
Là, c'était plus une démonstration technologique. Ça n'arrivera peut-être jamais, ça, en fait.
Là, moi, je suis content. C'est-à-dire qu'on a une équipe à Paris, pas uniquement de chercheurs français, d'ailleurs, beaucoup de chercheurs étrangers, qui s'est rassemblée, qui décide d'être totalement ouverte. Encore une fois, c'était les promesses d'OpenAI 2015, à ses débuts, qui n'ont pas été respecté. Et en plus, on voit qu'on rivalise avec les Américains. Donc, on peut être fier de notre recherche. Et c'est ça, en fait, qui me réjouit aujourd'hui.
Et moi, je rajoutais quelque chose hier, alors qui tombe un peu à propos, parce que le CMA-CGM nous a racheté. Mais moi, ce que je trouve bien dans cette.
Alors, tu dis ça parce que, l'un des investisseurs de QTI, c'est Rodolphe Saadé.
Voilà, ben,
le patron de CMA-CGM, le nouveau propriétaire de BFM.
Et donc, on voit des industriels qui. C'est pas que Xavier Niel qui vit dans l'univers tech, Eric Schmidt qui vit aussi dans cet univers tech de fonds d'investissement. On a Rodolphe Saadé qui est le patron de CMA-CGM et aujourd'hui le patron de BFM, mais qui est un industriel qui la tech
et qui voit sans doute son intérêt
Je trouve, et là pour moi c'est un appel lancé à toutes les entreprises notamment en France de soutenir les Mistral, de soutenir les Lighton, de soutenir les Dust, les Photoroom, enfin tous les Giscard, c'est là où on se dit mais allez-y, là il y a qui vous montre le chemin, faites-le quoi, n'attendez pas. Alors, ils travaillent tous déjà avec de l'OpenAI et tout ça, mais on a des boîtes françaises et allez-y, investissez. Alors, je crois que L'Oréal regarde Mistral d'un peu plus près, mais c'est vrai que dans les 600 millions de Mistral, on aimerait qu'il y ait 100 millions qui viennent de
sociétés françaises. C'est ce qu'on disait plusieurs fois sur ce plateau, c'est-à-dire sur des secteurs très stratégiques qui en plus commencent à être très incarnés.
L'énergie, la santé.
Exactement, c'est pas le moment de se dire on a une enveloppe, on met tout là-dessus parce que en face, et puis les limites dont tu parlais aussi qui ont été fixées, peut-être jusqu'à quand aussi, parce que si la concurrence en face, par exemple cette démonstration se voit aux États-Unis, on
voit OpenAI lâche le même outil,
voilà, et au final ils vont le sortir parce que ça sert à rien si l'outil existe qu'on utilise un outil d'un autre pays alors que nous on est capable de faire ça aussi.
Il y aura quelqu'un qui un jour ou l'autre franchira le pas, c'est obligé,
mais surtout comme l'a dit Guillaume, c'est pas très compliqué. Le compliqué, c'est le côté temps réel, prendre avec très peu de 7 secondes de Xavier Niel. Le reste, synthèse vocale, tout ça existe.
Ouais, mais la petite différence, si je puis me permettre, c'est que effectivement, si les OpenAI le relisent, le rendent disponible, là, avec Qtie, c'est qu'on rend disponible aussi la possibilité de s'emparer des outils. Donc c'est un petit peu la limite de l'open source. Et moi, je trouve ça bien. C'est-à-dire que je préfère qu'il reste ouvert. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu ce qu'il y a sous le capot et puis qu'il se fixe un peu de limite. Après, on va voir si effectivement c'est respecté ou si je suis un peu trop bisounours.
C'est ce que défend Meta avec son modèle Llama. C'est ce que défendait OpenAI au début avec sa partie ChatGPT. Puis maintenant, voilà, on est parti sur d'autres voies.
Voilà, on referme la parenthèse Qtie. Mais bon, c'est vrai qu'on en a parlé hier, on en parle encore aujourd'hui parce qu'on est très fiers de tout ça. Et même si évidemment c'est pas encore au niveau d'OpenAI, ben voilà, il y a pas beaucoup de pays qui arrivent à avoir un assistant vocal dopé à l'IA générative comme celui-ci.
On l'a dit beaucoup que quand même la France était une terre de chercheurs, de génies en intelligence artificielle. Donc c'est très très bien qu'on voit ça et que tous ne sont pas ailleurs en train de créer des choses qui ne sont pas pour la souveraineté française.
Et justement, ce qui est important de rappeler aussi, c'est que de la même façon que chez Mistral, mais chez d'autres aussi, c'est des gens Qtie, ils ont travaillé 10, 12, 15 ans chez les géants, géants américains. C'est pas soit des chercheurs qui ont monté leur, il y en a peut-être quelques-uns, des chercheurs qui tout de suite basculent dans le mode start-up, ou des étudiants hyper brillants qui sortent de leurs écoles, de leur université, qui créent leur start-up. Nous, on a des gens qui ont vécu
qui ont déjà une vie professionnelle.
Peut-être aux États-Unis ou en France, mais en tout cas, qui ont été chez ces géants américains, qui voient un peu tous les avantages, les inconvénients, enfin les atouts de travailler dans ces groupes et comment les formes de travail et tout ça. Et puis, de l'autre côté, qui voient aussi des défauts. Et donc, petite équipe, on prend le meilleur de tout ça et on y arrive.
Voilà, et on les paye bien. Parce que c'est aussi la particularité de Qtie, c'est qu'il paye ses ingénieurs.
C'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure des 300 millions en disant 10 millions, ça coûte pas cher, mais derrière, il y a
beaucoup de salaires.
Il y a des salaires aussi, il ne faut pas les oublier.
Allez, on enchaîne avec DJI. DJI, bah alors peut-être que vous ne connaissez pas cette marque, ce constructeur de drones, qui est hyper connu en Asie. Les fans de drones ne pensent que par DJI, parce que c'est vraiment le meilleur constructeur de drones. Hein. Moi, j'ai pu en tester un il n'y a pas longtemps, là, un tout petit truc. Vous mettez un masque qui intègre en fait des écrans, et en fait, vous avez l'impression d'être un oiseau. Et vous pilotez ça d'une manière très très simple. Il y a plein d'aides au pilotage qui font que vous ne vous plantez jamais. Et ça filme en 4K, avec des images incroyables. Franchement, c'est bluffant. Ce qui est intéressant, c'est que DJI, Guillaume, se retrouve dans une situation un peu comme Huawei.
C'est ça.
Finalement.
On a un peu l'impression que c'est une nouvelle victime de la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis. On avait vu Huawei qui il y a encore quelques années était le roi du monde sur les téléphones, on le voyait, mais surtout les infrastructures de réseau.
La 5G.
Et puis avec cette grosse pression de Washington, pousser pas mal de capitales européennes, en tout cas sur leur sol, à s'en passer dans leur cœur de réseau. On n'entend plus parler de ces terminaux. DJI, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on leur interdit une partie du marché américain. Ils doivent se réinventer. Huawei, pour la petite histoire, n'est pas mort du tout, c'est-à-dire que non seulement ils sont très actifs toujours en Afrique sur les cœurs de réseau, ils se sont beaucoup réinventés dans l'énergie, dans ce qu'on appelle le smart grid, c'est-à-dire l'énergie intelligente. Et là, on voit une tentative de réinvention de DJI à travers les vélos. C'est beaucoup plus sympa, c'est peut-être un peu moins stratégique. On a un peu l'impression qu'ils suivent aussi les pas du chinois Xiaomi.
Oui, parce que rappelons-le, je crois qu'il est interdit de vendre des drones DJI aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'un drone, ça communique avec le sol, ça a des capteurs, ça prend des images, et il y a toujours cette... alors, je ne sais pas si c'est une phobie ou si c'est une obsession
avec
américaine,
que
toutes ces données échappent en fait à l'utilisateur, au pilote du drone, et aillent directement à Pékin.
On parle des voitures chinoises, du coup, qui vont arriver sur le sol américain, parce que...
Il n'y en a pas beaucoup, les voitures chinoises. Hein.
Non, mais tu vois, ça peut s'appeler loin. Hein.
Oui, bien sûr.
Mais il y a juste un mot, juste pour rebondir deux secondes sur ce que disait Guillaume sur Nvidia, sur Huawei. Et Huawei a tellement bien rebondi que même en termes de processeurs et tout ça, ils sont en train d'avancer assez vite. Et à tel point que Nvidia, il y a eu des calculs qui ont été faits, Nvidia fait quand même 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires en Chine, malgré les restrictions et tout ça, parce qu'ils sont en train de contrôler, ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre un marché chinois si on laisse Huawei se développer, alors même avec des trucs moins puissants, etc., enfin, un peu contraint, restreint, mode dégradé, parce qu'ils n'ont pas accès à certaines technologies. Mais voilà, on voit, ils savent bien rebondir, hein, les Chinois.
Et donc, l'actu, c'est que tu le disais, DJI n'arrête pas les drones, mais se dit, pour ne pas mourir finalement, parce que si ils peuvent plus vendre de drones aujourd'hui aux États-Unis, peut-être que ce sera en Europe demain, on ne sait pas hein, finalement. Eh ben, ils sont sur un nouveau marché, sur les vélos, les VTT électriques. Et on se dit, mais pourquoi ? Mais parce qu'en fait, il y a plein de technos. On va dire qui sont dans les deux appareils, ouais, dans un drone,
la batterie, les capteurs,
la gestion des moteurs. Alors c'est pas les mêmes moteurs, bien évidemment, on n'a pas le même moteur sur un drone que sur un vélo, mais en tous les cas ils s'inspirent de tout ce qu'ils ont, tout leur savoir-faire technologique qui est immense dans les drones, pour maintenant lancer des VTT.
C'est malin parce que c'est un marché qui est là, et c'est un marché premium aussi, parce qu'on est sur des vélos qui coûtent très très cher, c'est plusieurs milliers d'euros les vélos en tout cas qui sont en train de sortir. On sait qu'il y a une utilisation de plus en plus croissante aussi, évidemment, de ce type de vélo. Donc, bon, s'il fallait une solution rapide à trouver, c'était la bonne. Et je pense qu'on va peut-être voir des déclinaisons aussi de produits et de marchés sur lesquels ils vont aller, en fait.
Non, puis ils ont appris, alors je reviens, c'est mon grand mot du soir, sous contrainte, enfin, ils ont travaillé sur le poids, sur la taille, sur des batteries toujours plus puissantes, sur enfin tout ce qui peut être capteur à bord. Et ça, pour un vélo, bah, c'est essentiel. Hein, des vélos électriques, on veut qu'ils pèsent le moins possible, on veut qu'ils aient une batterie toujours plus, enfin qui dure toujours plus longtemps. Et c'est vrai qu'ils ont certainement des enseignements à attirer de ce qu'ils ont fait pour les drones. Et on se dit d'ailleurs pourquoi les autres n'y ont pas pensé avant quelque part.
Ouais, c'est clair.
Les vélos parottes.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, certains experts, en tout cas analystes, imaginent la suite pour DJI, parce que si on se rapproche du vélo, on se rapproche de la mobilité, et justement avec tous les capteurs, tout le savoir-faire qu'ils ont en termes d'algorithmes, d'IA, etc. Certains imaginent même qu'ils pourraient proposer des véhicules autonomes demain, parce que toutes ces technologies finalement sont similaires. Hein. On le voit avec Tesla, hein, le robot Optimus de Tesla fonctionne avec des capteurs qu'il y a dans les véhicules Tesla. Donc on se dit que voilà. Alors pour l'instant, DJI ne dit rien là-dessus, mais peut-être que DJI vendra ces technologies comme un équipementier, finalement, automobile, à des constructeurs. Pourquoi pas? En tout cas, ça va être intéressant. Et moi, j'adore ces boîtes qui arrivent à rebondir comme ça, sous la contrainte.
Je vois plus comme ça. Je vois plus en équipementier, oui. Parce que, par exemple, voiture, il y en a quand même commencé.
Et là, on n'a pas évoqué, alors, on parlait du moteur électrique, mais ils sortent pas qu'un vélo électrique, ils sortent un moteur électrique qui a une puissance incroyable et qui vient concurrencer le moteur de Bosch, qui est un bijou de technologie. Donc là aussi, ça va être la guerre sur les moteurs électriques et sur l'efficience de ces moteurs. Donc, à suivre, DJI. Dans l'actu, puisque le temps passe vite, dis donc, il nous reste 6 minutes, je voulais qu'on évoque en fait un consortium qui s'appelle le NFC Forum. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le NFC, cette puce incroyable qu'on a tous découvert avec le Covid et qui nous a permis de découvrir le paiement sans contact, au début avec la carte bancaire et aujourd'hui avec le téléphone portable. Moi, je ne sais pas vous, mais je me sers tout le temps de mon téléphone pour payer en NFC, c'est génial. Et il faut savoir que ce NFC Forum est en train de travailler sur une nouvelle version de protocole, en fait, de connexion, qui s'appelle le NFC Multipurpose Tap, et qui va permettre de faire beaucoup plus de choses avec le NFC. Je ne sais pas si vous avez suivi cette actu.
Tu pourras faire, tu tapes une fois, tu pourras faire ton achat, avoir tes cumuls de points de fidélité, et puis également avoir ton reçu. Donc ça va faciliter la vie des commerçants, déjà.
En gros, je prends un exemple, je suis chez Carrefour ou un hypermarché.
Ouais.
Avant, je payais, mais je n'avais pas ma carte de fidélité, et je n'avais pas mon ticket, en fait, dans mon téléphone. C'était finalement, il fallait aller sur l'appli de l'hypermarché. Là, simplement en faisant ça, je vais payer, je vais avoir mes points fidélité et j'aurai mon ticket qui va s'afficher sur mon téléphone.
Et ce qui est assez fou quand même, disent pouvoir faire, c'est aussi d'avoir un contrôle de l'âge, parce que tu pourrais t'en servir dans les bureaux de tabac, donc pour acheter des cigarettes ou chez Carrefour encore pour acheter de l'alcool. Là, il faudra quand même voir sur la notion d'âge, comment on va arriver à faire ça sans qu'il y ait de partage de données, enfin toutes les problématiques évidemment de respect de la vie privée, comment on va arriver à ça sans qu'il y ait de problème là-dessus. Mais c'est quand même assez ingénieux. Et puis aussi pour à l'environnement encore, mais pour le ticket papier, là on voit de plus en plus d'efforts de la part des commerçants de proposer, si on souhaite ou pas, un reçu de façon électronique ou de façon papier. Il y a encore beaucoup de gens qui prennent le reçu de façon papier, peut-être par automatisme. Donc c'est bien s'il y a ce nouveau type d'automatisme qui s'installe.
Guillaume, tu as suivi cette innovation?
Oui.
Alors qu'il en est encore au... c'est embryonnaire, hein. Voilà, le NFC Forum dit c'est pas pour tout de suite, mais on y travaille.
Ouais, non, mais c'est sûr que ça fait partie des innovations qu'on utilise en permanence et on s'imagine de moins en moins en fait avoir besoin d'un contact physique pour payer, pour utiliser ses cartes de fidélité. Ça passe un tout petit peu sous les radars, mais c'est vrai que le Covid revient en force, un Covid qui on ne sait pas trop, un jour on est malade, l'autre pas. Donc c'est quelque chose qui est censé s'insérer.
C'est pour ça qu'on est isolé, Fred.
C'est bronchiolite qui est venu.
La bronchiolite, c'est dingue ça. Vous avez vu qu'ils ils vont refaire des campagnes de vaccination de bronchiolite
pour
là.
Les seniors, j'ai postulé.
Ah oui, les seniors.
Coché, ouais. La main.
Allez, les premiers.
Non, mais c'est vrai que la bronchiolite, c'était les bébés au départ.
Bah oui.
Donc voilà, tu vas peut-être faire.
Il y a un bébé en Frédéric.
Il y a un bébé en moi, voilà.
Il y a un bel enfant en Frédéric. Rien à dire là-dessus, Fred. Bon, on a fait le tour de toute façon.
On a fait le tour, oui.
Mais c'est intéressant quand même.
Moi, je suis toujours surpris. Bah, c'est toi qui m'avais branché là-dessus. C'est déjà la carte de métro, là. Le Pass Navigo qu'on a en direct sur son smartphone.
Mais on a été en retard là-dessus, hein, parce que à Londres, ça fait 6 ans, 7 ans que tu mets juste ta carte de crédit, hop.
Oui, mais là, maintenant, tu mets ton téléphone, t'as même pas ouvert l'application, tout ça. Enfin,
voilà. Ah, mais c'est génial. Et même si ton téléphone est éteint, ça fonctionne. Ouais. On se rend pas compte de la puissance de la puce NFC, c'est incroyable. Pour terminer, petite bataille aussi, il nous reste 2 minutes. On va pas avoir le temps de vraiment d'épiloguer là-dessus, mais c'est vrai qu'on arrive là. Dans quelques jours, Samsung va dévoiler ses nouveaux téléphones pliants. Les Z Flip 6 et les Fold 6, à quelques jours des Jeux Olympiques. Il faut savoir qu'en plus, Samsung est partenaire premium, je crois, de ces JO.
Ils vont en offrir même à tous les athlètes.
Ils vont en offrir à tous les athlètes, etc. Tout ça pour dire que finalement, on se rend compte que, à part Apple, tout le monde se met sur les smartphones pliants. Je sais que tu suis ça, Guillaume, pas mal, sauf Apple. Voilà.
Ouais, c'est vrai, il y a ça. Et puis surtout, on parlait de la guerre technologique entre les États-Unis et la Chine. Et on a vu effectivement Huawei qui était un des premiers à lancer ce téléphone pliant. On voit bien que les Coréens sont, alors en dehors de LG, qui a abandonné les téléphones portables, mais en l'occurrence Samsung, le premier vendeur de téléphones au monde, est le grand gagnant de ces nouvelles habitudes de consommation. Alors ça peut être souvent un peu imposant, ils ont des modèles qui veulent plus lifestyle, mais on voit que c'est véritablement eux qui tirent leur épingle du jeu.
Oui, il y a Motorola qui est revenu, on a reçu le patron de Motorola la semaine dernière.
Bien sûr, ils s'y mettent.
Quand j'étais à...
Il y a Honor, il y a Xiaomi.
Quand j'étais à ta place, là, Pierre Hotte.
La semaine dernière.
Oui, la semaine dernière, avec les nouveaux... Et alors eux, ils jouent beaucoup le côté vintage, puisque les premiers le StarTAC qui d'ailleurs rappelait l'Enterprise avec les cette série Star Trek, voilà, décidément j'ai du mal à trouver les mots. C'est la bronchiolite.
Mais
ils jouent beaucoup sur le côté vintage Motorola, justement. Ils rappellent le StarTAC justement dans cet appareil là ils en sortent 2 nouvelles versions. Alors, et il paraît, alors pour ceux qui utilisent beaucoup les pliables, on a Lucas Perraudin qui vient souvent ici nous dire, une fois qu'on l'a utilisé, on peut plus s'en passer.
Claudia, t'es tentée par les téléphones pliants ou pas?
Oui, franchement, oui, parce que l'époque des téléphones pliants, mais où il y avait juste l'écran quand tu ouvrais, franchement, me manque. Et c'est pas bien ce que je veux dire. J'ai l'iPhone depuis toujours. Depuis que je suis à l'université, bref. Et en fait, on a tous le même téléphone. Et franchement, il n'y a pas d'originalité. Et moi, j'ai envie d'avoir un truc qui a de la couleur, qui change. Après, il faut dire
Claudia
deux choses.
Claudia veut se démarquer.
C'est bon, tout le monde est un peu pareil maintenant, mais deux choses quand même plus sérieuses, pardon, sur ces téléphones. Il y a quand même un problème de prix encore, parce que c'est un marché qui reste très premium avec des téléphones assez chers, donc c'est pas pour tout le monde, donc on va voir les prix qui vont être proposés par les uns et les autres.
C'est beaucoup plus cher en général.
Et après t'as quand même des petits problèmes aussi de réparabilité parce que ça a tendance...
Samsung était à 2005 au début, le premier prix.
C'est-à-dire qu'on n'a pas encore ça chez les Fairphone qui sont censés être les téléphones réparables européens.
Européen,
on est vraiment sur le signe de la souveraineté numérique.
Mais gageons qu'Apple va venir sur ce segment du client.
Et là, ils vont tout casser.
On murmure 2026. Voilà, pour le premier téléphone pliant d'Apple. Je sais que certains de nos débriefeurs n'y croient pas. Moi, j'y crois dur comme fer. Hein. Je suis persuadé qu'il y aura un iPhone pliant qui va arriver. Merci beaucoup à tous les trois. C'était top. On a passé un excellent moment. J'espère que vous aussi, qui nous regardez ou qui nous écoutez, merci beaucoup à Claudia Cohen.
Merci.
Journaliste au Figaro. À très bientôt, Claudia. Je ne pense pas qu'on se revoit d'ici les vacances.
Non, je pars en vacances dimanche. Je vais voter, je m'en vais.
C'est très bien. Bah, oui. Bonnes vacances. On se retrouve à la rentrée avec beaucoup de plaisir. Guillaume, pareil. Bonnes vacances.
Merci beaucoup, François.
Et on se retrouve, si tu le veux bien, à la rentrée. Fred, nous, ça sera la semaine prochaine.
Lundi, oui.
Voilà, bien sûr, pour débriefer l'actu. Surtout parce que là, vous avez l'impression que c'est larmoyant, on se dit au revoir.
Si, ce week-end, Tech & Co Business.
Tech & Co Business, tu parles de quoi?
On parle des JO 2024, la cyber dans les JO. On reçoit le patron de Kinril. Kinril, ça fait 2 ans qu'ils ont coupé le cordon avec IBM. C'est la partie infogérance. Et tiens, il reçoit aussi la DG du Bon Coin. Avec Adobe, ils ont fait quelque chose autour de l'expérience client. Et une start-up super qui s'appelle Yes We Hack. Ils ont levé 26 millions de dollars. Ils ont levé 26 millions de dollars pour aller voir un peu s'il y a des bugs chez vous, des failles potentielles.
Voilà, Tech & Co Business ce week-end sur BFM Business et en replay podcast, bien sûr, tout comme Tech & Co. D'ailleurs, vous restez avec nous, bientôt 21h. On revient dans quelques instants et on va rentrer dans un film de science-fiction incroyable que Antoine Meunier va nous raconter. En 2030, l'ISS va être détruit par SpaceX. C'est pas des blagues, c'est la NASA qui a décidé ça, on va en parler. Et puis, en toute dernière partie, tu évoquais les JO 2024, mais moi aussi je vais en parler avec deux startups françaises qui ont participé ou de près ou de loin, ou qui ont failli participer aux JO. C'est le cas d'une, justement, qui sera avec nous sur le plateau. Elle va tout nous expliquer dans un instant. Merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne, revient dans un instant avec Léa Benaïm pour le Tech Flash, comme chaque soir. À tout de suite.
Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash.
Il est 21h01 sur BFM Business. Voilà, j'ai déjà attrapé la broncholite de Fred Simotel. C'est pas bon, ça. Merci beaucoup, Fred. Merci beaucoup. On enchaîne tout de suite avec Léa Benaïm. Vous le savez, comme chaque soir, c'est le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu-tech de ce jeudi 4 juillet. Bonsoir, Léa.
Bonsoir, François. Bonsoir à tous. À la une, plus de 50% du trafic Internet français est entre les mains de 5 géants de la tech. C'est le constat que dresse l'ARCEP. Sur le podium, que des Américains, avec Netflix en pole position. La plateforme fait 15% à elle seule, suivi d'Akamai, moins connu du grand public. Il est pourtant utilisé par la majorité des sites web. Et enfin, Google, Amazon et Meta pour compléter ce top 5. Le trafic est en baisse par rapport à l'année dernière, même si le gendarme des télécoms s'inquiète de l'arrivée de l'IA dans l'écosystème Internet. Amazon met Astro au chômage. Le petit robot de surveillance va s'arrêter fin septembre. Le géant du e-commerce a prévenu ce matin ses clients qui recevront tous un remboursement de l'appareil, soit 2 350 $. Mais l'entreprise n'abandonne pas pour autant le secteur. Elle se recentre juste et mise sur les robots domestiques, un marché plus porteur dans les années à venir. Et puis l'intelligence artificielle arrive dans les gares franciliennes. Objectif, calculer en temps réel l'affluence grâce à des caméras intelligentes, avec un écran qui affiche en temps réel le taux de remplissage dans chacune des rames. Une technologie pour mieux répartir les usagers dans le train, mise en place depuis mai dernier. Le process va s'étendre pour toucher au total 210 gares, juste à temps pour les JO. Et avant de terminer ce journal, une belle levée de fonds et française en plus. Le champion des logiciels RH, PAP, a annoncé ce matin sur BFM Business une levée d'1 demi-milliard d'euros. Alors même si une partie de ce montant est apportée par de la dette bancaire, ce tour de table reste un record pour l'entreprise parisienne et pour la période morose que vit en ce moment la French Tech. Et pour finir, Meta qui creuse son sillon dans les lunettes connectées, et Mark Zuckerberg prévoit déjà la suite avec des lunettes holographique. On en parle justement dans De quoi je me mail, une émission à retrouver dès demain midi sur la plateforme de BFM Business en podcast et en vidéo sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et je vous propose tout de suite d'en écouter un extrait.
C'est que ce seraient des lunettes avec de la réalité augmentée, mais où les informations contextuelles qui s'affichent dans ton champ de vision, un peu comme les Google Glass à l'époque, se feraient sous forme d'hologramme. Donc, c'est pas exactement ce qu'il entend par là, mais on peut imaginer des modélisations un peu 3D qui s'afficheraient en fait dans ton champ de vision.
Ça viendrait superposer des informations en plus, sauf en 3D, et pour par exemple expliquer ce qui se passe dans une scène, pour donner une direction. Je pense qu'on
va peut-être faire même ça, une traduction, avoir des sous-titrages en direct.
Absolument, ouais, c'est ça.
Voilà, donc, retrouvez De quoi je me mail dès demain en exclusivité sur la chaîne YouTube de Tech & Co et en podcast audio, bien sûr. Il est 21h04. Tout de suite, on va parler espace avec notre spécialiste que vous commencez à connaître, Antoine Meunier, nous a rejoint sur ce plateau.
Tech & Co, la quotidienne, décryptage.
Le rédacteur en chef de la chronique spatiale en chair et en os sur BFM Business. Salut Antoine.
Salut François.
Antoine Meunier, donc, qu'on adore recevoir dans Tech & Co pour décrypter justement toute l'actualité spatiale qui s'accélère. Hein. L'actu spatiale ne s'arrête jamais.
Il y a beaucoup de choses en ce moment.
Et j'imagine que sur la chronique spatiale, tu n'arrêtes pas.
Ben là, en ce moment, le gros sujet, c'est Ariane 6.
Ouais.
On est à J-5 du sujet. Si tu me permets une parenthèse, c'est un lancement qui est très important. Et curieusement, la presse spécialisée n'a pas été conviée à couvrir ce lancement. Ça a beaucoup surpris mes confrères et moi-même. Voilà, c'est une petite parenthèse que je...
Et pourquoi, à ton avis ? Est-ce qu'il y a une frilosité derrière tout ça ?
Aucune idée. C'est quelque chose qu'avec les confrères, on ne s'explique pas. On ne se l'explique pas.
Alors, J-5 pour Ariane 6,
c'est vraiment...
avec des enjeux énormes.
Ah oui. Là, on parle vraiment de retrouver un accès souverain à l'espace pour l'Europe. C'est un programme qui a 4 ans de retard. On doit accélérer. Il faut accélérer
parce qu'il y a des commandes.
Il y a des commandes qui s'empilent. Il y en a malheureusement une qui a été annulée par Eumetsat il y a quelques jours.
Ça a été un coup de fou.
C'est sûr, ça tombe pas très bien.
Oui, parce que c'est SpaceX qui va envoyer ce satellite.
Du coup, SpaceX va envoyer ce satellite de Metsat en lieu et place d'Ariane 6. Il y a un problème visiblement de disponibilité de ce satellite, mais il y a aussi un problème parce qu'Ariane 6, n'est toujours pas disponible. Mais en termes de communication, c'est un très mauvais message que Metsat envoie. C'est de la défiance sur un lanceur qui n'a pas encore fait ses preuves.
Oui, c'est un satellite européen qui choisit un lanceur américain.
Metsat, c'est une entité européenne indépendante d'Ariane Espace, pour faire court. Donc son calendrier ne...
Mais ils n'ont pas joué le jeu de la souveraineté, c'est ça qu'on peut reprocher.
Voilà, c'est ça qu'on peut leur reprocher. Pour parler du lanceur, moi j'avais en ligne ce matin plusieurs de mes sources et tous sont très sereins. Vraiment, les deux mots qu'on m'a dit, ça a été ça roule. C'est-à-dire déjà le degré d'optimisme qui est quand même important, un optimisme pondéré, mais un optimisme quand même.
Ouais. Là, le seul petit
circonstance.
Le grain de sable, c'est la météo.
Oui.
C'est ça qui peut être la variable d'ajustement.
Il faut savoir aussi, on est quand même dans les régions tropicales, on est au niveau de l'équateur, le temps est très facilement changeant. Ce qui peut arriver, l'un des principaux points les plus embêtants en matière de météo, ce sont les vents en altitude. À vers 10-15 000 mètres d'altitude, il peut y avoir des vents très violents. Et lorsqu'on largue un étage, il faut éviter que ça puisse retomber sur des habitations. S'il y a un quelconque doute par rapport à la météo, par rapport à cette météo et sur les vents d'altitude...
On décalera le lancement.
On décale le lancement.
Bon, évidemment, c'est le 9 juillet, on sera encore là dans Tech & Co et on essaiera de suivre cette actualité en temps réel. Antoine, l'actu qu'on voulait évoquer ce soir...
Oui.
Là, on a l'impression vraiment d'être dans un film de science-fiction. C'est la NASA qui a confié ce contrat d'une valeur de 843 millions de dollars à SpaceX pour concevoir en fait un véhicule spatial qui va être chargé de désorbiter l'ISS lorsqu'il sera en fin de vie en 2030.
Alors, bon, on n'y est pas encore. Déjà, ça paraît important quand même de le rappeler. Il faut dire une chose, c'est que la Station Spatiale Internationale, ses modules vieillissent. La durée de vie des modules, ça devait être d'à peu près 30 ans. En 2028, ça fera 30 ans que les deux premiers modules ont été installés en orbite, connectés en orbite. Cette station, elle arrive en fin de vie.
Oui, avec des risques.
Avec des risques inhérents de malfonction. La protection contre les micro-météorites se détériore. Donc, il faut éviter d'avoir un débris qui fait quand même plus de 100 mètres de diamètre. C'est-à-dire, pour faire simple, l'équivalent du Stade de France à 400 km dans l'espace. Imagine un stade de foot dans l'espace.
Qui flotte au-dessus de nos têtes.
C'est colossal.
Ouais, c'est absolument, beaucoup, oui.
C'est absolument colossal. Dans l'intervalle, intervalle, les missions, elles vont continuer. Je voudrais rappeler qu'il y a Sophie Adnaud, la française, qui va être sur la station en 2026, au printemps 2026. Il y aura un autre astronaute belge, Raphaël Liégeois, qui la suivra. Là, le contrat, pour en revenir au contrat entre SpaceX, SpaceX va donc mettre au point un véhicule qui va permettre de désorbiter la station, c'est-à-dire de la projeter dans l'atmosphère terrestre, de manière à ce qu'elle se désagrège, à ce qu'elle se désintègre.
Parce que là, elle est en orbite.
Elle tourne à 400 km, elle est régulièrement... Il peut y avoir des rehaussages d'orbite qui sont faits avec les véhicules qui sont connectés en différents points de la station. Il peut y avoir parfois aussi des manœuvres d'évitement, comme on l'a vu il y a quelques jours, lorsqu'il y a un débris qui passe à proximité. C'est quelque chose de colossal. Hein. La station, vraiment, c'est... Donc, il faudra éviter, quand les modules, on ne pourra plus séjourner à bord, il faudra donc descendre la station dans l'atmosphère, qu'elle se désintègre au-dessus du Pacifique Sud, de manière justement à ne pas encombrer l'orbite et à éviter de provoquer des débris.
Si j'ai bien compris, Antoine, donc il y a une fusée SpaceX qui va partir. Encore eux.
Alors, Pas tout de suite. Ça sera sur la base, ça sera vraisemblablement, possiblement sur la base des véhicules existants.
Et donc au bout, il y aura un appareil.
Au bout, il y aura un appareil.
Qui va être lancé par une fusée. On ne sait pas à quoi ça ressemble.
Pour l'instant, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble, puisque simplement le contrat a juste été signé entre SpaceX.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que cet appareil,
dont il va se connecter à la station.
Il va se connecter à la station.
Il va se connecter à la station.
Et la pousser, la désorbiter.
La pousser, ralentir. La ralentir pour qu'ensuite elle plonge dans le Pacifique.
Et donc, en plongeant dans le Pacifique,
elle se désintégrera.
Parce qu'elle va évidemment exploser dans l'atmosphère.
Elle va se désagréger dans l'atmosphère. Les Russes ont fait la même chose en 2001, quand ils se sont débarrassés de la station Mir, qui elle aussi était arrivée en fin de vie.
Et ça s'est bien passé, ce désorbitage.
Et ça s'est parfaitement passé.
Encore une fois... Voilà. SpaceX rafle la mise sur ce coup-là. Non, mais c'est dingue, ça devient un acteur incontournable du spatial aujourd'hui.
Oui, là aujourd'hui, ça, je crois que le monopole de SpaceX, il est flagrant.
Tu dis que c'est pas pour tout de suite, c'est 2030, mais finalement, dans le temps spatial, 6 ans, c'est pas énorme.
Ça passe très très vite. C'est vrai que ça passe très très vite. Après, on ne sait pas encore si la station sera arrêtée en 2030, 2031. Il y a encore des variables qui vont s'ajuster.
Il faudra aussi que
SpaceX sera prêt, mais bon, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Ensuite, il faudra aussi que la NASA et SpaceX signent un autre contrat pour lancer le futur véhicule.
Parce que l'ISS aura un remplaçant.
Alors, l'ISS aura des remplaçantes, puisqu'on parle de stations. Ce sera possiblement, vraisemblablement, des petites stations commerciales, des structures moins importantes.
Et qui moins coûteuses aussi, peut-être, non ?
Vraisemblablement.
Parce que ça a été un gouffre financier, cette ISS. Même si c'était mondial, un des investissements mondiaux.
Ce sont des investissements mondiaux, c'est entre 100 et 130 milliards de dollars, grosso modo, à peu près. Là, on parle de faire des stations qui vont être exploitées par le privé, avec pour des entreprises, pour des institutions, aussi bien les agences que des universités, et sans doute peut-être aussi pour des activités un peu plus ludiques. Ça, c'est tout à fait possible.
Très bien. Avec, je le disais, la Russie qui fait partie intégrante du projet ISS. On sait qu'en ce moment, les relations entre les États-Unis et la Russie sont pas tendues. Ouais. Je crois que la Russie met en garde même, d'ailleurs, les dirigeants de tout cela et de l'ISS en disant, c'est même pas sûr qu'on arrive à 2030, en fait, en termes de vieillissement de l'ISS.
Il y a ça, mais il faut penser aussi une chose, c'est que l'ISS, c'est un projet qui est, à la base, il y avait les Russes et les Américains, et Russes et Américains ont besoin l'un de l'autre pour faire fonctionner leur partie respective. Donc les Russes vont, je pense, encore rester dans ce programme. Ensuite, après, ils ont un projet qu'ils aimeraient mettre sur pied, un projet de station qu'ils aimeraient mettre sur pied, mais il faut aussi du budget.
Le budget,
pour l'instant, il n'est pas disponible.
Merci beaucoup Antoine pour toutes
ces précisions. Merci à toi
François. Rédacteur en chef du site lachroniquespatiale.com que je vous invite à découvrir, bien évidemment. Merci Antoine.
Bien.
À bientôt. Les directions à 21h14, la rédaction de Tech & Co comme chaque soir.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Sylvain Trinel nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Et Apple nous propose de démarrer l'été avec une nouvelle qui est moyennement réjouissante, mon cher Sylvain.
François, hein, faut se préparer à tousser à nouveau.
Voilà, on va payer un peu plus cher nos iPhones.
Exactement, on va devoir payer quelques euros de plus parce que depuis ce jeudi 4 juillet, le prix des iPhones, c'est plus tout à fait les mêmes en France. Apple a en effet discrètement augmenté le prix de ses différents appareils dans l'Hexagone et uniquement dans l'Hexagone. C'est une belle exclusivité française.
Ah, ça fait plaisir.
Exactement.
C'est bien.
Mais oui, ça arrive pas souvent.
Mais voilà, on peut se targuer d'avoir les iPhones un petit peu plus chers, mais que nous.
Exactement. Et d'ailleurs, un iPhone 15 aujourd'hui, hier, il coûtait 969 €. Maintenant, il coûte 970,95 €. Un iPhone 15 Pro, il était à 1229 €. Maintenant, il est à 1230,95 €. Alors, c'est une augmentation de 1,95 €, oui, très précisément. Mais c'est quand même une augmentation.
Mais alors, pourquoi Apple a augmenté ses prix surtout pour 1,95 €?
Alors, évidemment, c'est valable déjà chez tous les revendeurs officiels et donc chez Apple. Cette hausse, elle s'explique par une évolution d'une taxe française, celle sur l'économie circulaire. Vous savez, cette taxe en fait, qui permet d'encourager à la réparation plutôt qu'à un remplacement pur et simple d'un appareil. Mais cette contribution imposée aux fabricants, elle est passée de 2 centimes à 1,67 € en moyenne. La hausse est même plus importante sur les smartphones qui n'ont pas de connectique standardisée, comme l'iPhone SE, puisque la taxe s'élève maintenant à 4 €. Alors Apple a, comme à son habitude, on ne va pas jouer les surprises, ils n'ont pas accepté de faire un cadeau aux consommateurs et ils ont, en prenant en charge cette augmentation, et ça, tant pis pour nous. Hein.
Ouais, ce qu'il y a de dingue, c'est que voilà, un appareil qui coûte 1000, 1200, 1500 euros, tu l'augmentes de 1,95 € pour compenser cette taxe.
1230,95 €, c'est très précis.
C'est dingue. Apple aurait pu faire un effort quand même.
Peut-être avec les iPhone 16. Hein ? Peut-être avec les iPhone 16. Avec
peut-être, on verra bien, qui arriveront en septembre prochain. Merci beaucoup, Sylvain.
Merci.
Journaliste à la rédaction de Tech & Co. Si cette histoire vous paraît étonnante, venez la lire sur le site de Tech & Co. 21h16, on va parler start-up maintenant et aussi Jeux Olympiques avec nos invités.
Tech & Co, la quotidienne, les invités.
Et j'accueille sur le plateau de Tech & Co Quentin Barenne qui est là. Bonsoir Quentin.
Bonsoir François.
Vous êtes le cofondateur de Wintix et Pierre-Arnaud Coquelin aussi est avec nous. Bonsoir Pierre-Arnaud.
Bonsoir François.
Et vous êtes le fondateur de Weir. Alors, vous êtes deux startups qui travaillaient dans deux, on va dire, domaines différents. Wintix est plutôt dans les caméras de surveillance. Et vous, Pierre-Arnaud, vous êtes plus sur tout ce qui est géolocalisation indoor et outdoor, je crois bien. Et ce qu'il y a d'intéressant, on voulait vous réunir ce soir, c'est que au départ, et on va commencer par vous, Pierre-Arnaud, vous deviez participer au JO avec votre technologie.
Tout à fait. Alors, pas participer en tant qu'athlète. J'aurais bien aimé.
C'est vrai qu'en plus, vous êtes taillé pour. Vous auriez eu la médaille d'or tout de suite. Mais votre technologie aurait dû être déployée pour un test en collaboration pendant les JO. Et patatras, ça ne s'est pas fait.
Alors, patatras, c'est un grand mot, mais effectivement, oui, on devait équiper un grand opérateur de la sécurité de la plateforme parisienne durant les JO. Donc, concrètement, d'abord, je peux dire à quoi servent nos capteurs.
Bien sûr, allez-y. Et vous êtes basé à Montpellier.
Tout à fait. On les met sur des personnes en intervention. Donc, par exemple, des pompiers, le GIGN, le RAID ou d'autres personnes en intervention. Et là, on met des antennes qu'on place dans Paris. Par exemple, 23 antennes suffisent pour déployer tout Paris.
Mais c'est des petits capteurs qu'on pose sur nous. Ils ressemblent à quoi, ces capteurs?
Ça fait la taille d'un téléphone, en gros, au final.
Okay.
Voilà. Et la grande particularité, c'est que ça permet de localiser dehors comme un GPS, mais surtout dedans, dans les sous-sols, les parkings et dans tous les bâtiments, y compris, bien sûr, les stades.
Avec des émetteurs qui sont alentour.
C'est okay. Ça, exactement. 23 émetteurs dans tout Paris. Donc c'est un peu comme un émetteur de radio ou de télé. Ça émet loin, à plusieurs kilomètres, et ça traverse 50 mètres de béton. D'où l'intérêt pour toutes les personnes qui interviennent en intérieur et l'intérêt pour les Jeux Olympiques, pour pas mal de forces de sécurité.
Alors, on va peut-être pas rentrer dans les détails. Enfin, vous savez pourquoi cette expérimentation s'est pas faite finalement?
Tout à fait.
C'est quoi? C'est un problème de timing? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, c'est notre choix en fait. On n'était pas totalement prêt pour cette date-là.
Okay.
Et on a préféré reporter ça à septembre. Et très concrètement, on équipera les mêmes personnes, mais après les JO.
Bon, finalement, ça fait quelques semaines de décalage.
Ça.
Vous avez été créé en 2021. Vous dites que votre technologie n'était pas tout à fait prête. Vous avez levé 11 millions d'euros en septembre 2023. Hein. C'est pas mal quand même.
Oui.
Vous n'étiez pas prêt, pourquoi? Parce que c'est compliqué à mettre en place toute cette technologie?
Alors oui, c'est un système très, très, très innovant. Moi, c'est ma troisième entreprise. La première était dans l'IA pour la donnée pour le retail. La seconde, dans le GPS pour le sport de haut niveau. On équipait la Ligue 1 et le Top 14. Et là, c'est vraiment un cran au-dessus. C'est de la deep tech hardware. C'est la première fois au monde qu'une entreprise arrive à traquer des objets à l'intérieur, derrière 10, 15, 20 mètres de béton. Et effectivement, à mettre au point, c'est beaucoup de boulot. On est 30. On travaille dessus depuis maintenant 5 ans. Et la version industrielle, et on livre nos premiers clients en septembre.
D'accord.
Mais en fait, mars, c'était un peu court.
Oui. Et oui, parce qu'il fallait être prêt en mars, j'imagine, pour la pétition, pour tout ça, etc. Vous avez un calendrier quand même assez ambitieux, hein. Vous prévoyez une nouvelle levée de fonds en 2025 pour pénétrer aussi le marché américain avec votre technologie. Et 2027, vous lancerez une nouvelle technologie qui permettra de développer une innovation liée à cette géolocalisation, c'est ça ?
Alors, pour être précis, en fait, l'ambition de WIR, on a inventé une technologie de géolocalisation. C'est un peu comparable à l'invention du GPS, finalement, il y a 30 ans. C'est un GPS.
Sauf que ça marche à l'intérieur, même dans les parkings, etc.
Ouais, et 95% de l'activité humaine étant à l'intérieur, forcément, c'est un intérêt fort.
C'est-à-dire que si vous aviez ce capteur-là, alors que, évidemment, on n'est pas à ciel ouvert, on pourrait vous détecter précisément.
Exactement.
Avec quel degré de précision ?
1 mètre, à peu près.
OK.
Voilà. Et l'idée, c'est de surtout pas s'arrêter là. Aujourd'hui, vous l'avez dit, on a un capteur qui fait la taille d'un téléphone. En 2026-2027, ce capteur, il va devenir tout petit. Il va faire 8 mm par 8 mm. Il sera un peu comme une puce Bluetooth. On pourra le mettre partout, sur tous les tournevis, sur tous les objets. Et en 2030, l'idée, c'est d'arrêter d'avoir besoin de déployer des antennes pour couvrir une zone et de lancer notre propre constellation de satellites. Donc 350 satellites en orbite. On appelle ça le LEO-PNT, donc Low Orbit. Voilà, et venir.
Mais il faudra toujours des émetteurs terrestres, non ? Est-ce que les satellites suffiront pour pénétrer les 50 mètres de béton que vous évoquiez juste avant ?
Exactement. En fait, c'est la technologie qui permet de pénétrer les 50 mètres de béton et de se localiser à un mètre près, que ce soit sur Terre ou à 800 km de haut, ça marche exactement pareil, c'est pas la proximité. Donc l'ambition de WIR, c'est vraiment de lancer une constellation de satellites et d'être le leader mondial des solutions de géolocalisation indoor, outdoor, à horizon 2030.
Avec des métiers particuliers, des travailleurs isolés, contrôler l'accès aux zones sensibles, c'est ça ?
Exactement. Les usages à très court terme, c'est traquer des forces de sécurité, des travailleurs isolés en intervention. C'est beaucoup l'industrie 4.0. Je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle, mais
oui, bien sûr.
Traquer des machines, des objets dans des usines déjà connectées, des grosses usines. On a beaucoup de demandes là-dessus. Et c'est aussi un peu la Smart City, avec des usages plus variés, le retail, l'entertainment, les voitures autonomes. Ça, c'est nos trois premiers marchés. Et à terme, j'entendais tout à l'heure parler de l'iPhone 15 ou 16, pliable ou pas. Dans l'iPhone 20, on y sera.
très bien. Mais en tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci beaucoup, Pierre Arnaud. Alors, vous avez raté de peu les JO. Finalement, c'est pas si important que ça. Mais notre deuxième invité, lui, n'a pas raté ces Jeux Olympiques. Quentin Barenne, donc le cofondateur de Wintix. Alors, vous équipez les caméras de surveillance pendant les Jeux Olympiques avec votre technologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter Wintix ?
Ouais. Wintix, c'est une société française. Notre métier, c'est développer un logiciel d'analyse vidéo qui est capable de se connecter sur toutes les caméras qui sont installées dans l'espace public, dans les gares, dans les aéroports, dans les stations de métro.
Donc vous vous pluguez à des caméras qui existent déjà, qui sont déjà là.
On se connecte aux caméras qui sont déjà là pour en analyser les flux et en tirer soit des statistiques, par exemple des comptages. On travaille beaucoup avec la ville de Paris pour compter les vélos parce qu'il y a une forte volonté de développer l'usage du vélo et nous on les compte avec des dispositifs rapides à déployer, les caméras qu'on rend intelligentes, ou bien deuxième possibilité, produire des notifications en temps réel à destination par exemple des forces de sécurité pour leur indiquer qu'il y a des événements anormaux qui peuvent se dérouler et c'est ce volet-là qu'on va déployer pendant les Jeux Olympiques.
Alors racontez-nous, qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines maintenant avec votre technologie pendant les JO ? Où est-ce que vous allez installer votre solution et sur quel type de caméra ?
Alors pour donner un peu de contexte, il y a le ministère de l'Intérieur qui a lancé un appel d'offres afin de choisir un prestataire qui va proposer son logiciel pour l'analyse vidéo dans le cadre des Jeux Olympiques. Nous, on a remporté cet appel d'offres. Cet appel d'offres, il est encadré par une loi qu'on appelle la loi JO, qui permet de mettre en œuvre ce logiciel tout en protégeant la vie privée et les données personnelles de chacun.
Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez compter. Je vais passer, moi, dans la foule, vous allez me compter.
Ouais.
Mais vous n'allez pas savoir que c'est François Sorel.
On ne saura pas que c'est vous.
D'accord.
Et ce cadre, cet appel d'offres, il se fait dans le cadre d'une expérimentation qui met en œuvre 8 types d'applications. Je vais en donner quelques exemples. Dans les réseaux ferroviaires, donc dans les réseaux RATP, SNCF, on va compter les personnes sur les quais pour détecter des situations de suraffluence et envoyer des notifications aux équipes de sécurité de la SNCF et de la RATP. S'il y a des gens qui s'introduisent sur les voies ou qui tombent sur les voies, on va également le détecter. S'il y a un véhicule qui vient se garer devant l'accès pompier d'une enceinte sportive, on peut aussi le détecter pour envoyer une notification à des forces de sécurité pour les aider à être plus réactifs face à ces situations anormales. Le but, c'est d'aider des opérateurs vidéo qui ont énormément de caméras à regarder.
Bien sûr, qui ne peuvent pas tout regarder.
Qui ne peuvent pas tout voir, qui ne peuvent pas tout regarder.
Vous, vous regardez à leur place.
Et nous, notre logiciel regarde à leur place et leur envoie des notifications quand il y a des levées de doutes à réaliser.
Est-ce que lorsque vous arrivez à compter une foule, vous avez un comptage précis ? C'est quoi les marges d'erreur, là ?
En fait, le sujet, en l'occurrence ici, il est plutôt de détecter des mouvements de foule, des niveaux d'affluence. D'accord. Pas forcément de dénombrer de façon extrêmement précise, mais plutôt de fixer des seuils et quand est-ce qu'on dépasse des seuils. Après, le marché du comptage, au-delà des Jeux Olympiques, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément. On travaille avec beaucoup de collectivités pour compter les piétons, les vélos, les voitures. Et là, pour donner un ordre de grandeur, on dépasse les 97% de précision sur les comptages qu'on réalise pour le compte de collectivités.
Et donc, pendant les JO, vous serez où ? Vous l'avez dit, sur les gares, les stations de métro, les choses comme ça ?
Ouais, ça peut être dans les réseaux ferroviaires, donc des stations de métro ou des grandes gares de la SNCF, et ça peut être dans l'espace public, notamment aux abords des enceintes sportives, pour détecter s'il se passe des choses qui sont anormales et qui ont un intérêt à être notifiées pour des opérateurs vidéo.
Parce que c'est ça qui est intéressant, vous arrivez à détecter des comportements anormaux sur des vidéos, c'est ça ?
Plus que des comportements, c'est des situations. Est-ce qu'il y a un véhicule ou une personne qui s'introduit dans une zone, un périmètre qui est interdit ? Est-ce qu'il y a une personne qui oublie son bagage un quai de métro, par exemple ? Donc, on ne s'intéresse pas à des personnes, on s'intéresse à des situations.
Tout ça marche avec du deep learning, j'imagine.
Bien
c'est
sûr.
De l'IA. On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Finalement, vous, ça fait des années que vous utilisez tout ça, parce que je crois que vous avez été créé en 2017.
Oui, exactement.
Est-ce que l'IA générative est un sujet qui vous intéresse, vous ? Est-ce que ça peut apporter quelque chose de plugger une IA générative à des caméras, par exemple ?
Alors, aujourd'hui, l'IA générative, c'est nettement plus consommateur en termes de serveurs, de ressources informatiques que nous, on peut faire. Donc, il y aurait un vrai enjeu de passage à l'échelle sur ces technologies-là. Donc, on ne s'appuie pas sur l'IA générative pour faire nos analyses vidéo. En revanche, l'IA générative, elle ouvre un champ des possibles, notamment pour piloter notre logiciel. Aujourd'hui, vous voulez mettre en œuvre une analyse, vous prenez votre souris, vous dessinez une zone d'intérêt et vous y associez des règles. Mm-hmm. Peut-être que demain, en fait, notre logiciel, vous allez le piloter en écrivant un petit message. Cher Wintix, merci de paramétrer un comptage sur ma caméra 14 qui filme l'avenue de la République et de paramétrer une détection d'intrusion aux abords du Stade de France. Et ça peut ouvrir un univers des possibles qui va rendre encore plus accessible notre technologie à des gens qui ne sont pas toujours très à l'aise avec les outils numériques.
Vous êtes prêt pour les JO, j'imagine ?
On est prêt.
Combien de caméras, en fait, vous allez scruter avec vos logiciels ? Il y en a beaucoup ?
Alors ça, il y en a plusieurs milliers dans des contextes différents. Certains encadrés par les sujets de la loi JO, d'autres plus pour des collectivités pour faire du comptage, notamment parce que les collectivités s'attendent à des pics d'affluence dans l'espace public et ça les intéresse de savoir est-ce que les JO ont drainé beaucoup de visiteurs et beaucoup de touristes au sein de la collectivité.
Et après, c'est l'héritage data de ces JO qui est phénoménal et qui va sans doute apporter beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup Quentin Barenne, cofondateur donc de Wintix, et on vous souhaite plein de bonnes choses avec votre société.
Ah, merci à vous.
Que se passe bien. Et merci aussi à Pierre-Arnaud Coquelin d'être venu nous voir depuis Montpellier, fondateur de WIR avec ce système de géolocalisation très intéressant. C'est avec toutes ces belles innovations que se termine ce Tech & Co ce soir, en ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée et on sera de retour, bien sûr, lundi dès 20h en direct à la radio, à la télé. À bientôt.
Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.